Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je dénonce. Nicolas Sarkozy n'est pas le meilleur président de la République française. Bon, vous allez me dire, c'est un avis politique, ça ne regarde que toi Baptiste, on connaît tes avis de bobo gauchiste. Eh bien, figurez-vous que ça n'a rien à voir avec mes avis politiques, non. Simplement, résultat surprenant de la théorie des votes, admettons que le lendemain de son élection, en 2007, on organise un scrutin très simple. Voulez-vous remplacer Nicolas Sarkozy par François Bayrou ? Eh bien, croyez-le ou non, mais le référendum aurait été sans appel. Le patron du Modem était préféré à Nicolas Sarkozy. Fait encore plus surprenant, Ségolène Royal eût-elle été élue face à Nicolas Sarkozy, soumise au même traitement, elle aurait perdu de même. Cet exemple est très contre-intuitif. Un candidat élu au suffrage à deux tours peut instantanément être battu, au lendemain de son élection, par quelqu'un avec qui il était en lice. Comment est-ce possible ? Est-ce grave ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. Alors une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire un petit disclaimer. Il n'est pas question ici de discuter de la légitimité de tel ou tel politicien élu par tel ou tel suffrage passé. L'idée, c'est ici de parler des scrutins eux-mêmes, de la théorie mathématique derrière tout ça, et des problèmes que ça pose. Ah, et un deuxième petit disclaimer, je viens de prononcer le mot mathématique. Partez pas, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans La Voix est libre, l'émission farouchement bimensuelle de l'association Picassoft, qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée, et qui promeut une approche libre, éthique et inclusive et locale du numérique. Moi, c'est Baptiste, je suis en compagnie de Quentin. Bonjour Quentin.
Salut Baptiste.
Et de David Savouret.
Salut à tous.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Ouais, bah, je m'appelle David Savouret, je travaille au CNRS et j'enseigne à l'UTC l'informatique. Et je me suis intéressé à la théorie des votes en faisant une préparation pour la fête de la science. Mais donc je ne suis pas un spécialiste du sujet en recherche, mais dans le cadre de la fête de la science, j'ai préparé une présentation là-dessus.
Et tu avais aussi présenté, si je ne dis pas de bêtises, le semestre dernier, une petite présentation aussi ?
Ouais, alors c'était une asso ou une future asso étudiante qui m'avait fait venir. C'était au moment des élections législatives et ils voulaient mobiliser un peu les collègues. Ils avaient organisé une soirée et donc j'étais venu parler justement de la théorie des votes dans ce cadre-là.
Ok.
Bon, histoire de raccrocher quand même avec l'émission, parce que peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font les libristes là, nous parler de mathématiques. On peut faire une petite pirouette en disant voilà, la voie est libre, on parle beaucoup de culture libre, donc du coup de communs, et du coup les communs ils font un mode de gouvernance, et qui dit mode de gouvernance dit peut-être vote, et donc théorie du scrutin, hop, triple salto arrière, on peut y aller.
Et hop, bim bam boum, on commence donc avec le commencement. Toute cette histoire de théorie des votes, donc quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser au scrutin ? Ça vient d'où ? Pourquoi est-ce que c'est vraiment un sujet important ? Pourquoi est-ce que c'est pas un problème si facile que ça, les scrutins ?
Alors, la théorie des votes, on peut, l'étude de la théorie des votes, on peut la faire remonter à Nicolas de Condorcet et à un livre qu'il a sorti ou un article en 1785, donc on était encore en monarchie à l'époque. Et donc, il y a deux gros résultats qu'il a présentés, Nicolas de Condorcet. Le premier, donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème du jury. Donc on est dans une situation où on peut imaginer un jury qui doit prendre une décision, par exemple, est-ce qu'un tel est coupable ou non ? Et chacun doit voter. Et donc c'est un modèle où là il y a une vérité sous-jacente parce que la personne est réellement coupable ou non, mais on ne le sait pas. Et donc il s'agit de découvrir la vérité. Et Nicolas de Condorcet, il pose un modèle où il dit en fait chaque votant a une certaine probabilité d'avoir raison, enfin de découvrir la vérité ou non. Et il montre qu'en fait plus le jury est nombreux et plus on a de chances que ce soit la vérité qui soit décidée à la fin. Ce qui n'était pas intuitif à l'époque parce qu'en monarchie, on était avec un roi qui décide de tout et qui est éclairé et le peuple qui était pour la plupart, qui ne savait pas lire. Et donc, ce n'était pas intuitif du tout.
Ça, c'est un résultat mathématique ?
Oui, c'est un résultat mathématique parce que même pour formaliser ça, en fait, ça a été le début de la théorie des probabilités qui est aussi attribuée à Condorcet. Mais ça, à l'époque, c'était une idée qui n'était pas du tout intuitive. Et le deuxième enseignement de Condorcet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Condorcet. Et ça va nous faire entrer dans le cœur de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est l'idée qu'on peut construire facilement... on peut imaginer une situation où, en fait, il y a trois candidats, trois alternatives. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur la terminologie entre nous, mais En gros, on imagine une élection où il y a trois personnes qui peuvent être élues. Et en fait, si on demande à la population est-ce que vous préférez A à B, il y a une majorité de gens qui répondent oui. Est-ce que vous préférez B à C, il y a aussi une majorité de gens qui répondent oui. Et est-ce que vous préférez C à A, il y a encore une majorité de gens qui répondent oui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à dégager un ordre de préférence qui satisfasse l'ensemble de la population. Et ça, en fait, ça vient nous dire que l'idée qu'il y a un candidat préféré d'une population quand elle vote, c'est une idée qui est mal fondée, qui peut ne pas être vraie. Dans certains cas, oui, mais il peut y avoir des situations où ce n'est pas vrai.
En fait, ce que tu dis, c'est que on a cette intuition, nous, qui est que chacun, on a une personnalité préférée. On est tout à fait capable d'exprimer des préférences, mais qu'en fait, elles se diluent dans une masse. Et quand on est beaucoup, cette propriété qui est vraie pour un individu, qui est on a un individu préféré, elle est plus vraie dans le cadre d'un groupe ou d'une foule, notamment.
Ouais, exactement, c'est ça. Et spoiler un peu la suite, on peut facilement trouver une situation où, en fait, suivant la manière où on demande aux gens leurs préférences, on arrive à des résultats différents. Encore une fois, donc pour repréciser, on se donne une population, chacun a ses préférences, et on les fait voter quatre fois de manière différente, mais dans les quatre situations, les gens ont les mêmes préférences, et en fait, suivant comment on les fait voter, on arrive à des résultats différents. Et si on regarde les quatre manières dont on fait voter les gens, les quatre nous paraissent a priori raisonnables.
Et ça, pour ça, je sais notamment que tu as un atelier qui est assez percutant là-dessus, où tu vas donner des préférences à tout le monde dans une salle d'une vingtaine de personnes, et tu vas leur demander de voter selon ces quatre scrutins, et tu vas arriver ensemble avec les 20 personnes à quatre choix totalement différents, totalement opposés. Et ça, tu arrives à le faire en vrai avec des préférences forcées, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, on avait, quand je préparais justement l'atelier pour la fête de la science, je me disais, je vais aller dans des classes et je sais pas combien je vais avoir d'élèves devant moi. Et donc, avec une étudiante de l'UTC, Agathe, à qui je dis bonjour aujourd'hui, on avait travaillé, elle avait fait un travail personnel avec moi pour construire justement les situations qui s'adaptent à tous les nombres de votants et qui fasse que je puisse jouer avec les lycéens et leur dire, vous allez voter selon cette méthode, vous allez voter selon cette méthode, il y avait quatre votes différents. À chaque fois, un même lycéen avait toujours les mêmes préférences, et finalement, on arrivait à montrer qu'à chaque mode de scrutin, on avait un résultat différent.
Et donc, les préférences, je ne sais pas si ça spoil la suite, mais elles sont exprimées de quelle manière? Parce que du coup, le paradoxe de Condorcet, on peut dire c'est un peu comme poule, renard, vipère. La poule bouffe la vipère, etc. Et du coup, il n'y a pas de plus fort. Oui. Et c'est ce genre de préférence que les gens avaient dans ton exercice?
Alors, ouais, tu as raison, Quentin. Ce que je n'ai pas précisé, qu'est-ce que j'appelle les préférences? C'est qu'on demande, en fait, dans le modèle mathématique, c'est que chaque votant, il a un ordre qui va de son candidat préféré à son candidat le moins aimé. Et voter, c'est respecter son ordre de préférence pour arriver à la meilleure issue possible pour moi.
Ok, donc là, du coup, ce qu'on a vu, c'est que il y avait des votants qui avaient des préférences, mais par contre, la foule, mathématiquement, elle n'a pas une préférence. On n'est pas capable de démontrer une préférence. Mais donc, si on a un objectif qui est impossible de trouver le préféré, quel va être l'objectif de la théorie des votes? Qu'est-ce qu'on va chercher à faire émerger dans un scrutin si ce n'est pas le préféré?
Ouais, donc, en fait, une fois qu'on accepte l'idée qu'il n'y a pas forcément de candidat préféré global, du coup, on passe de ce que j'appellerais une obligation de résultat à une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on va essayer de se dire, ok, avant il y avait un candidat, je cherchais à atteindre tel candidat parce que c'était lui le préféré, maintenant j'ai plus ça, et donc je me dis, je vais essayer de faire en sorte que la méthode que j'utilise pour déterminer le vainqueur de l'élection soit la plus irréprochable possible. C'est-à-dire qu'elle respecte des propriétés qui me semblent essentielles pour toute méthode raisonnable d'élection.
Et du coup, ces propriétés essentielles, tu as des exemples à nous donner, par exemple ?
Oui, oui, oui. Alors, j'ai des exemples, ils ne viennent pas de moi, mais par exemple, quelque chose qui est important, ça s'appelle l'universalité. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas d'une méthode qui interdise à certains votants d'avoir un certain type de préférence. Pour donner des noms, si vous mettez Bayrou en 1, vous n'avez pas le droit de mettre Le Pen en 2. Une méthode qui dirait, ce genre de vote, je ne les veux pas. Nous, on ne veut pas de cette méthode-là. On veut que chacun puisse avoir l'ordre qu'il veut sur les candidats. Ça, c'est l'universalité.
Parce qu'on voit tout de suite, du coup, le problème, s'il n'y avait pas la notion d'universalité, c'est qu'on pourrait interdire, on pourrait dire, pour des raisons mathématiques, vous n'avez pas le droit de voter un tel, etc. Ce serait ça le problème, quoi.
En fait, ce serait, du point de vue des mathématiques, ce serait super confortable, mais socialement, ce n'est pas du tout acceptable. Et donc, on le jette.
Exactement. Donc, on voit là l'articulation, en fait, entre... Il y a des propriétés mathématiques qu'on va essayer de trouver qui vont s'adosser à des propriétés qu'on veut avoir pour des raisons sociales, pour des raisons politiques. Il y a une deuxième propriété, notamment, qui est une propriété d'unanimité. Donc là, c'est pareil, tu peux nous en parler, mais c'est pareil, on voit directement l'intérêt.
Alors, l'unanimité, c'est quelque chose de simple. C'est, imaginons que toute la population est d'accord sur son candidat préféré. Eh bien, effectivement, il faudrait que la méthode déclare que c'est ce candidat-là qui gagne l'élection. Une méthode qui ne respecterait pas l'unanimité, c'est une méthode qui... on a toute une population qui veut de Bayrou et ce n'est pas lui qui est élu.
Une troisième propriété, David, c'est l'indépendance aux alternatives non pertinentes. Et je crois que c'est l'idée que... en gros, c'est l'absence de vote utile, quelque part. On pourrait résumer ça comme ça ou pas ?
Alors, l'indépendance aux alternatives, ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est que le classement entre deux candidats ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'un troisième candidat. Alors, comme ça, c'est un peu abstrait. Mais, par exemple, on imagine qu'à une certaine élection... c'est Emmanuel Macron qui gagne, et avec une certaine préférence des Français. Et si, en enlevant des candidats à l'élection et en maintenant les préférences des Français, ce n'est plus lui qui gagne, on n'est pas indépendant aux alternatives. Alors, ce truc-là, en fait, c'est tellement ancré dans notre mode de scrutin qu'on a l'impression que c'est normal. Mais quand j'avais préparé la fête de la science, j'avais lu des documents là-dessus. Et il y a un doctorant de Paris 6 qui avait préparé une thèse sur la théorie des votes. Et il expliquait, avec un exemple qui est très rigolo, que je vais vous donner aujourd'hui. Il disait, imaginez, vous êtes au restaurant et le serveur vous dit, aujourd'hui, vous avez le choix entre prendre un plat avec du bœuf et un plat avec du poulet. Et toi, Quentin, tu dis, ok, je vais prendre le bœuf. Et le serveur revient 5 minutes plus tard et dit « Ah, j'ai oublié, il y a aussi du poisson aujourd'hui, si vous voulez. » Et là, tu lui réponds « Ah, ok, dans ce cas-là, je vais prendre le poulet. » Et donc là, on voit que le classement entre le bœuf et le poulet a changé par la simple présence du poisson. Et ça paraît contre-intuitif, mais on le verra plus tard, dans la plupart de nos systèmes à nous, on n'a pas cette indépendance aux alternatives tiers, c'est-à-dire que la présence d'une troisième alternative peut faire varier le classement entre deux candidats.
Et du coup, je ne sais pas si on... Est-ce que ça a du sens de dire que le vote utile, c'est un peu de cet ordre-là, du style j'ai une préférence personnelle pour un petit candidat, mais la présence d'un gros candidat va me faire pas exprimer cette préférence parce que le système fait que, tu vois, il faudrait faire barrage ou je sais pas quoi. Est-ce que ça rentre un peu dans ce cadre-là ou c'est pas formellement ça ?
Si, ça rentre un peu dans ce cadre-là, mais après le vote utile, on a quand même, on le verra un petit peu plus tard, je crois, des moyens de l'éviter. Alors que là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que, en fait, l'indépendance aux alternatives... Il y a un résultat très important dans la théorie des votes qui s'appelle le théorème d'impossibilité d'Arrow, qui dit qu'en gros, on va devoir faire avec. Donc, pour préciser un peu ce que dit ce théorème-là, il dit, imaginez que vous ayez une élection qu'il y ait au moins 3 choix dans l'élection et 2 votants. Bon, c'est souvent le cas. Si vous cherchez à respecter l'universalité, donc on a dit tout à l'heure, c'est chacun peut avoir ses préférences sans restriction. Et si vous cherchez à avoir l'unanimité, c'est-à-dire que si tout le monde préfère quelqu'un, il est élu, et l'indépendance aux alternatives, alors les maths disent il y a une solution, mais il n'y en a qu'une seule de solution.
Et du coup, on est rassuré, il y a une solution. Cool, problème résolu. On va pouvoir satisfaire nos 3 propriétés, si je t'entends bien.
Ouais, sauf que cette solution, en fait, c'est une solution qui n'a d'intérêt que mathématiquement. Parce que cette solution, elle est très particulière. Elle consiste à dire que respecter l'universalité, l'unanimité et l'indépendance aux alternatives revient à faire en sorte que le mode de scrutin soit ce qu'on appelle dictatorial, c'est-à-dire qu'il n'écoute qu'un seul des votants. D'accord ? Si un mode de scrutin est dictatorial et qu'il n'écoute qu'un seul des votants, alors on peut avoir les 3 autres propriétés qui sont respectées. Évidemment, socialement, on n'en veut pas d'une telle fonction. D'accord ? On ne veut pas qu'un mode de scrutin soit dictatorial. Et du coup, ce théorème d'Arrow dit, si vous avez un vote qui est basé sur les préférences avec 3 alternatives et au moins 2 votants, vous ne pouvez pas avoir simultanément l'universalité, l'unanimité, l'indépendance aux alternatives et la non-dictature. Et donc, en pratique, la seule qu'on accepte de violer, c'est l'indépendance aux alternatives. Donc, il va falloir faire avec. Dès lors qu'on a un mode de scrutin qui est basé sur les préférences, on n'a pas l'indépendance aux alternatives qui est respectée.
Et du coup, donc là, ça fait 3 propriétés. Il y a une 4e propriété assez importante qui est la manipulabilité. Est-ce que tu peux en redire quelques mots peut-être dessus ?
Oui, alors la manipulabilité, c'est pareil. On est tellement habitué à ce que ce ne soit pas respecté qu'on a même du mal à comprendre ce que ça veut dire. Donc je vais essayer d'être aussi clair que possible. La manipulabilité, c'est l'idée que j'ai une certaine intention qui est basée sur mes préférences. Et quand je vote, je fais une certaine action. Est-ce que l'action que je fais est toujours sincère par rapport à mon intention, est-ce que, pour que ce soit le meilleur résultat possible pour moi. Et pour formaliser ça, en fait, on suppose que dans un vote, tout le monde a voté sauf moi, d'accord ? Et je suis au courant de tout ce que les autres ont voté. La question, c'est est-ce que j'ai toujours intérêt à voter selon mes préférences pour arriver au meilleur résultat possible ? Si oui, on dit que le vote n'est pas manipulable, mais s'il y a des situations où j'ai intérêt à tordre mes préférences parce que ça va peut-être mener à un résultat qui est plus positif pour moi, on dit que le vote est manipulable. Et là aussi, en fait, il y a un gros résultat dans la théorie des votes qui s'appelle le théorème de Gibbard, ou Gibbard, je ne sais pas, qui dit que, en fait, dès lors qu'il y a au moins 3 alternatives, eh ben, on n'y peut rien, il y aura de la manipulabilité. À moins qu'à nouveau, on soit sur un système dictatorial, mais on n'en veut pas.
Et du coup, tu m'interromperas si je me trompe, mais là, l'idée, tu décris un cas très particulier qui est je suis le seul à... il ne reste plus que moi à voter, je connais les résultats de tout le monde, etc. Mais en réalité, ça, c'est la définition mathématique de la chose. Ça décrit quelque chose de beaucoup plus grand qui est... j'essaie d'anticiper comment les gens vont voter pour mon vote, etc. Je sais qu'il y a 3 candidats à gauche, j'ai envie que la gauche passe. Du coup, ça me force à tordre mes votes. En réalité, ça décrit aussi ce phénomène-là.
Oui, exactement. On le modélise en disant, je suppose que je connais les votes des autres parce que c'est comme ça qu'on capture le phénomène. Mais en pratique, c'est plus facile de comprendre ce qui est un vote non manipulable. Un vote non manipulable, c'est un vote où je sais que mon intérêt, c'est d'exprimer sincèrement mes préférences parce que c'est comme ça que j'irai que je favoriserai le plus possible l'option qui m'intéresse. Et donc, en fait, le seul vote où on a toutes les bonnes propriétés du monde, c'est un vote où il n'y a que 2 alternatives. Les votes type référendum où on doit voter oui ou non, alors là, on a toutes les bonnes propriétés du monde, ça se passe bien, c'est pas manipulable, c'est universel, c'est tout ce que vous voulez. Mais dès lors qu'il y a 3 alternatives, il y a des problèmes.
D'accord, bah merci beaucoup pour ces explications. Là, je sens qu'on est face à un drame. Le choix n'est pas possible. On ne peut pas faire un scrutin qui marche bien dans tous les coups. On va essayer de résoudre ce problème après une petite pause musicale, je propose.
Eh ben oui, carrément. Et puis on va peut-être essayer de rentrer un peu plus dans l'exemple en parlant des modes de scrutin qu'on connaît et puis de voir comment est-ce qu'ils satisfont ou non ces propriétés. Mais histoire donc de se détendre un peu le cerveau, on va écouter le titre Une foule de Gaspard Claus. C'est sur l'album Tankad dans licence Creative Commons by NCSA. Et Baptiste, tu nous l'as déniché sur l'excellent site Zik Libre en Bib. C'est parti. Rebonjour à toutes et à tous. Vous écoutez toujours La Voix est libre et on parle toujours de mode de scrutin avec Baptiste et David. Bon alors, il est pas bien notre mode de scrutin ? Hein ? C'est quoi encore là, les gens qui gueulent pour rien ?
Là, on est quand même face à un petit problème, donc je vais juste le répéter pour nos auditeurs. Le drame face auquel on était finalement, c'était qu'on cherchait à avoir quatre propriétés qui nous paraissent assez simples, qui est... chaque votant peut exprimer chaque votant peut exprimer n'importe quel avis. Si tout le monde est d'accord, ce serait bien que le mode de scrutin respecte cet accord général. Que si une personne veut se présenter à une élection, que ça n'ait pas d'impact sur le résultat d'une élection. Et aussi que la dernière propriété, la manipulabilité, que moi, sachant le vote de tout le monde, je ne change pas mon avis uniquement pour des visées stratégiques. Et on était face à un problème. C'est pas possible. Et du coup, si ce n'est pas possible, on peut déjà se poser la question, qu'est-ce qui cloche dans le nôtre ? Nous, on a un scrutin, par exemple, le scrutin présidentiel à deux tours. On aimerait qu'il respecte les quatre propriétés. Et David, est-ce que tu peux nous dire brièvement pour chaque propriété si le scrutin à deux tours le respecte ou pas ?
Alors, donc l'élection présidentielle en France, c'est donc un scrutin uninominal à deux tours. Je ne vais pas le rappeler parce que tout le monde sait comment ça marche. Mais effectivement, donc, du point de vue théorique, ce scrutin-là, il n'est pas terrible. Donc, il n'échappe pas au théorème d'Arrow, mais ça, on ne peut pas trop lui reprocher dans la mesure où personne n'y échappe. On en reparlera à la fin, mais parmi les scrutins qui sont basés sur les préférences, personne ne peut échapper à Arrow. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir l'unanimité, l'universalité, l'indépendance et la non-dictature. Mais celui-là, il a quand même... Le scrutin uninominal à deux tours, il a quand même d'autres propriétés qui sont très problématiques. Et donc, je vais essayer de vous donner, par exemple, des mauvaises propriétés de ce scrutin. Donc, la première, c'est l'idée qu'en participant à une élection, on ne peut que favoriser le fait que le résultat soit meilleur pour nous. L'incitation à la participation. Et ça, en fait, on peut trouver des exemples où ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, vous prenez une même population qui a ses préférences, vous les faites voter selon ses préférences, et c'est un candidat B qui émerge, ou A ou B, on s'en fout, appelons-le comme on veut. Et maintenant, il y a deux personnes qui avaient voté, et qui maintenant ne vont plus voter. Ils restent chez eux, ils vont à la pêche, selon un des noms sous lesquels on connaît cette propriété. Et le fait de ne pas aller voter fait que finalement, c'est un candidat plus meilleur pour eux qui passe que lorsqu'ils allaient voter. C'est-à-dire que le fait d'être allé voter pour eux a dégradé la qualité du résultat de l'élection. Donc ça, clairement, c'est une mauvaise propriété. On a envie d'envoyer le message aux électeurs. Allez voter, ça va aller dans le bon sens pour vous.
Et ça, on peut donner un petit exemple de pourquoi ça fait ça avec notre scrutin uninominal de tour.
Ben, c'est surtout le fait du deuxième tour. En fait, quand je le présente comme ça, ça paraît choquant, mais tout le monde est très habitué au fait que, comme il y a... tous les candidats sauf deux qui sont tués au premier tour, il suffit de construire une instance ou une instance, c'est-à-dire une population et des préférences sur cette population qui font que en allant voter, en fait, on fait passer au deuxième tour quelqu'un qui est plus fort qu'un de nos candidats préférés et du coup il va être le résultat va être globalement plus négatif pour nous. Je peux donner un deuxième exemple qui s'appelle la monotonie. Et celui-là, donc souvent, on dit que l'élection en 2002, celle où en gros Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour contre Jacques Chirac. Donc le deuxième exemple, ça s'appelle la monotonie. Et c'est l'idée que si un candidat améliore sa performance, alors le résultat doit lui être plus favorable. Donc, c'est quoi la performance d'un candidat ? En gros, c'est sa popularité. Alors, donc, à cette élection en 2002, ce qui se passe, c'est que au premier tour, les trois candidats qui ont eu le plus de voix, c'était donc Jacques Chirac en 1, Jean-Marie Le Pen en 2 et Lionel Jospin en 3. D'accord ? Imaginons que Jacques Chirac soit allé chasser encore plus sur les terres du Front National et capter des électeurs de Jean-Marie Le Pen, on peut arriver à une situation où, au deuxième tour, il se serait retrouvé contre Lionel Jospin et non pas contre Jean-Marie Le Pen. Et là, on pense qu'il aurait perdu. C'est-à-dire que s'il avait été plus populaire, d'une certaine manière, il aurait perdu l'élection. Et donc ça, c'est clairement pas non plus une bonne propriété. Mais tu en as parlé tout à l'heure, Quentin, la pire des propriétés pour nous de notre scrutin à deux tours, c'est le vote utile. C'est le fait que, c'est massif, c'est le fait qu'il y ait une majorité de gens qui votent en n'indiquant pas leurs préférences.
Et dans l'exemple que tu décris, on retrouve aussi le paradoxe des pêcheurs, qui est que si ces électeurs qui sont... que Jacques Chirac s'est embêté à aller chercher en faisant une meilleure campagne où il, pour avoir, du premier tour pour avoir plus d'électeurs. Si ces électeurs-là, au lieu d'aller voter, ben en fait, ils vont à la pêche parce que c'est quand même vachement plus sympa d'aller à la pêche. Et ben on se retrouve avec un second tour avec, avec Jacques Chirac et Lionel Jospin. C'est Jospin qui gagne. Et on voit que ces électeurs-là, ils n'avaient vraiment pas intérêt à aller voter. On voit la symétrie des deux propriétés. Et là, du coup, tu nous parles du vote utile. Dans le cadre d'un scrutin à deux tours, ce que tu nous dis, c'est que globalement, c'est pas possible quoi, d'éviter le vote utile. On va toujours avoir des primaires, des machins, des gens qui vont essayer d'éviter le vote utile.
Alors, le vote utile, il rentre dans ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est la manipulabilité. La manipulabilité, d'une manière générale, c'est le fait qu'on puisse avoir intérêt à ne pas dévoiler ses vraies préférences pour favoriser l'issue du vote. Et donc, clairement, le vote utile, c'est un exemple de manipulabilité. Et on sait que la manipulabilité, en général, on ne peut pas l'éviter dès lors qu'on a au moins trois alternatives. Par contre, le vote utile en particulier, on peut proposer d'autres scrutins qui n'ont pas le fameux problème de la division des voix. Cette époque magique là où les gens qui sont dans un même parti et qui sont supposés être d'accord, ils se plantent des couteaux dans le dos pour être le candidat de leur parti. Parce que sinon, il y a division des voix ils n'ont aucune chance de gagner. Ben ça, on peut imaginer d'autres modes de scrutin qui, au moins, ne posent pas le problème de la division des voix.
Et du coup, un exemple simple, peut-être de...
Alors simple, j'espère qu'il est simple, mais il y a, par exemple, un vote qui s'appelle le vote unique transférable qu'on peut utiliser pour élire une personne et qui pose moins ce problème-là. Alors, je vais essayer de l'expliquer. Donc, on imagine toujours qu'on a une population où chacun a une préférence à classer tous les candidats dans sa tête, de celui qu'il préfère à celui qu'il aime le moins. Et on fait voter d'abord tous les votants, et on leur demande qui est-ce que vous préférez. On regarde le résultat et le ou la candidate la moins populaire est éjectée. On recommence. Mais donc les votants ont les mêmes préférences, mais cette fois-ci, il y a un candidat en moins. On refait ça et on retue un candidat. Et on refait ça de manière itérative jusqu'à ce qu'on arrive à... Il y a un vote avec plus que deux candidats et celui qui gagne, c'est celui qui est élu. En vrai, on ne fait pas ça. En vrai, ce vote-là, il est utilisé et on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on demande dès le départ aux votants d'exprimer... L'ordre de préférence de leur candidat, du début à la fin.
Ouais. Parce que du coup, le problème qu'il y aurait là, c'est que nous, on a un scrutin à deux tours, c'est sympa, on va deux fois voter. Là, ce que tu nous dis, c'est s'il y a 20 candidats, on doit aller voter 20 fois à la base.
Oui, exactement. Et donc, en pratique, c'est pas ça qu'on fait. On demande à chaque votant d'exprimer une fois pour toutes l'ordre de préférence sur les candidats. Et ensuite, on va simuler les 20 tours dont tu parlais en disant, c'est au premier tour, tel votant aurait voté pour lui parce qu'il est encore présent. Si tel candidat n'est plus présent, alors il va voter pour lui parce que c'est son premier candidat préféré parmi ceux qui sont encore présents. Et donc, on peut le faire en une seule fois. Et donc, j'en reviens au problème de la division des voix. Ce qui se passe dans une élection comme ça, c'est que imaginez qu'il y ait 27 candidats écolos et vous êtes écolo, vous avez pu à vous poser la question de lequel je dois soutenir, sachant que j'ai envie, si je me trompe, en fait, ma voix, elle va compter pour rien. Vous pouvez mettre vos 27 candidats écolos dans la tête de votre ordre de préférence. Ensuite, vous mettez les autres et naturellement, votre voix va se reporter sur les candidats écolos qui sont encore en vie. D'accord ?
Et du coup, ça permet vraiment d'exprimer ses préférences comme on veut, sans avoir besoin de faire une stratégie, sans avoir besoin de se dire « Ok, alors lui, il va passer au deuxième tour. »
Alors, ça limite la question de la division des voix. Malgré tout, souvenez-vous, Guibard nous a dit « On ne peut pas échapper à la manipulabilité. » Et donc, il y a toujours, dans toutes les élections, il y aura du vote stratégique. D'accord. Mais on peut essayer de le limiter quand même.
Et donc là, on limite plus l'impact du vote stratégique que le vote stratégique en lui-même, quoi.
Exactement.
Là on est quand même un peu déçu parce que finalement on pensait avoir trouvé un vote qui est bien, qui permet d'éviter le vote stratégique et finalement tu nous dis il va pas si bien que ça, il est quand même manipulable en fait. On a essayé de l'éviter mais ça reste une solution qui est pas satisfaisante quoi.
Ouais, t'as raison. Et donc, quand j'avais préparé la fête de la science, j'avais eu la chance de discuter avec un spécialiste français qui s'appelle Jean-François Lallier de la théorie des votes. Et je lui avais dit, mais en fait, je voudrais pas que, à l'issue de ma présentation, les gens se disent, mais de toute façon, ça sert plus à rien de voter, c'est nul. Et donc, il m'avait dit, ouais, t'as raison, mais ce qu'il faut faire passer comme idée, c'est le fait que le fait qu'il n'y ait pas de système de vote parfait ne veut pas dire que tous les systèmes se valent. D'accord ? Encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de truc parfait, ça ne veut pas dire que, bon, bah, de toute façon, on s'en fout, tout est pourri. Non. Il y a quand même des choses qui sont meilleures que d'autres. D'accord ? Et donc, c'est pour ça, que ça c'est qu'il faut faire quand même une étude théorique. Et en particulier, Guy Barre et la manipulabilité, on ne peut pas y échapper. Mais par contre, à Rowe, il existe des systèmes de vote qui sortent du cadre dans lequel le théorème d'impossibilité d'Arrow s'applique, c'est-à-dire où on peut avoir simultanément l'universalité, l'unanimité, l'indépendance aux alternatives et la non-dictature. Ces systèmes-là, c'est les systèmes qui ne sont plus basés sur les préférences. Encore une fois, les préférences, c'était dire que les votants doivent décider d'un ordre de préférence sur les candidats et ensuite suivre cet ordre quand on leur demande de voter. Cette fois-ci, en fait, on imagine que les votants mettent des notes aux candidats. On passe sur des systèmes par évaluation. D'accord ? Ils mettent des notes et en particulier, je peux mettre la même note si je suis votant à deux candidats différents. Cette fois-ci, on ne classe plus les candidats, mais on note les candidats. Et donc, il y a des systèmes qui sont connus de vote par évaluation. Si vous voulez, je peux vous en parler un petit peu. Le premier, donc, c'est le vote par approbation, qui est un vote très simple, où en fait, chaque votant va dire oui ou non sur chaque candidat. Oui, je suis d'accord pour qu'il soit il ou elle soit élu. Non, je ne suis pas d'accord pour qu'il ou elle soit élu. Chaque votant fait ça et en fait, le ou la candidate élue est celui ou celle qui a recueilli le plus de oui. Et donc ça permet d'échapper au théorème d'Arrow. Et en plus, ça a la bonne propriété d'être simple à comprendre pour les votants, simple à dépouiller. Et malgré tout, on sait qu'il y a du vote stratégique, c'est Guy Barre qui nous le dit, et on n'y peut rien. Mais il n'y a plus du tout le problème de la division des voix. Vous imaginez que sur un vote comme ça, s'il y a encore une fois 27 candidats écolos, ben on s'en fout, on peut mettre oui aux 27, ou s'il y en a un qui ne revient pas, on lui met non à lui, mais on met oui aux 26 autres. On fait ce qu'on veut et on n'affaiblit pas son message en se trompant de candidats écologiques. On peut dire oui à tout ce qu'on veut.
Et en plus, la réflexion à mener derrière, elle n'est pas extrêmement complexe. Elle revient à dire, OK, cet ensemble-là, j'en veux, cet ensemble-là, j'en veux pas. Il n'y a pas à comprendre le système de vote et à se dire, parce qu'on va en parler après, d'autres modes de scrutin où il faut essayer d'évaluer chacun des candidats. Là, c'est simple. C'est j'en veux, je mets oui, j'en veux pas, je mets non.
C'est ça. C'est pratique, simple. Tu as raison. C'est simple à comprendre et c'est simple à dépouiller. Alors, il y a un autre système de vote par évaluation qui est assez célèbre, qui s'appelle le jugement majoritaire.
Donc, attends, je t'interromps, mais juste pour en revenir à l'autre mode. En fait, ce que tu décrivais aussi, c'était que au niveau de la personne qui vote, ça revient à établir une limite entre ce que je veux et ce que je veux pas. Ce qui est une tâche assez simple finalement, c'est dire OK, ça je veux, et à partir de là, je veux plus. Donc, il y a quand même un système de préférence, mais qui est très très simplifié par rapport au vote.
Ouais, ce que m'avait dit Jean-François Lallier, j'espère que s'il nous écoute, il sera d'accord quand je rapporte ses propos, c'est qu'il trouvait qu'un avantage de ce vote par approbation, c'est que ça responsabilisait les votants. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous avez votre ordre de préférence entre les candidats, la question c'est où est-ce que vous mettez la limite dans ceux que vous accepteriez de voir élus et ceux que vous acceptez pas de voir élus. Et donc, il y a la prise de responsabilité de chaque votant. Jusque-là, pour moi, c'est OK. Et après lui, par contre, c'est pas OK pour moi. Et donc, j'en viens à, si tu veux, Baptiste, à l'autre système de vote par évaluation qui s'appelle le jugement majoritaire. Donc, ce que je disais, c'est qu'il a été proposé par deux chercheurs français qui s'appellent Michel Balinski et Rida Laraki. Et on en a entendu parler, on en entend souvent parler à l'occasion des présidentielles, parce qu'il y a des votes alternatifs qui poussent sur le web pour proposer justement d'autres modes de scrutin. Et celui-là, il commence à être utilisé. Et donc celui-là, il consiste à dire que chaque candidat va mettre des mentions sur chaque votant, pardon, va mettre des mentions sur les candidats qui sont, je sais plus, il y a 5 ou 6 mentions, très bien, bien, acceptable, passable, ou je sais plus trop quoi. Enfin, vous imaginez, comme une prof de français, quoi. Il y a 5 mentions possibles. Et ensuite, on va dire que le candidat élu, c'est celui qui a la mention médiane la plus haute. Et souvent, comme il n'y a pas beaucoup de mentions, il y a égalité. Et donc, il y a des règles assez compliquées pour déterminer qui gagne en pratique. Et donc, c'est un reproche qui pourrait être fait à ce vote, c'est qu'il est assez difficile à comprendre. Et un vote qui est difficile à comprendre, on peut trouver que c'est un vote qui ne met pas les votants sur un pied d'égalité. Il ne faut pas que les mathématiciens soient privilégiés par rapport au reste de la population au moment où ils votent.
Et donc là, ce que tu dis, c'est que là, pour le coup, il échappe totalement à Haro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de stratégie, etc.
Alors, il échappe à Haro, ça veut dire qu'il a l'indépendance aux alternatives. C'est ça que ça veut dire. Haro, c'est indépendance aux alternatives, et Guibard, c'est manipulabilité. Personne n'échappe à Guibard, à part les référendums où on n'a que 2 alternatives possibles. Haro, pour y échapper, tous les votes par évaluation y échappent. En fait, la raison, elle est très simple, c'est que la performance d'un candidat quand on met des notes, elle va rester la même qu'il y ait d'autres candidats qui soient là ou qui ne soient pas là. En fait, si j'ai un 17 sur 20, que Quentin il soit présent comme autre candidat à l'élection ou pas, j'ai toujours 17 sur 20. Donc le classement entre Baptiste et moi ne va pas dépendre de la présence de Quentin en tant que candidat.
Quentin, il ne va pas venir te manger tes voix.
Exactement.
Mais du coup, juste parce que tu prenais l'exemple des notes, mais il y a certains profs qui notent un peu en relatif, s'il y a quelqu'un qui est, tu vois, qui font le barème un peu en fonction, les uns en fonction des autres. Là, il faut qu'on se mette dans la situation où c'est un peu absolu, qu'on ne considère pas les...
Exactement, oui. Il faut utiliser les notes pour ce qu'elles sont.
Par rapport à nos valeurs à nous. Et voilà, quoi, on ne se dit pas... Il ne faut
pas utiliser les notes pour faire un classement.
Ouais, c'est ça, ok.
Il faut utiliser les notes en se disant, possiblement, 2 candidats différents pour moi peuvent avoir la même note pour des raisons différentes. Et c'est très bien comme ça.
Mais du coup, là, ce que tu nous dis quand même, qui est un peu, qui nous pose problème finalement, c'est pour échapper à Haro, donc pour échapper aux problèmes mathématiques qu'on s'est posés, il faut rentrer dans des modes de scrutin qui sont plus complexes, qui sont plus difficiles à appréhender pour tout le monde, etc. Et où il faut rentrer dans les mathématiques, savoir comment est-ce qu'on extrait la mention de chacun et comment est-ce qu'on extrait qui a gagné, qui a la meilleure mention finalement.
Encore une fois, le jugement majoritaire, je trouve qu'il n'est pas forcément très simple à comprendre. Après, il peut avoir plein de bonnes propriétés, mais en tout cas, il n'est pas ultra simple à comprendre. Par contre, le vote par approbation, le premier dont j'ai parlé, moi, je le trouve très simple. Chaque votant dit oui ou non sur les candidats, et en fait, tout le monde serait capable de déterminer, de dépouiller un vote comme ça. Il faut juste compter le nombre de oui, et celui qui en a le plus, il a gagné. Donc celui-là, moi, je le trouve vraiment très simple.
Est-ce que ce ferait pas une petite pause musicale avant d'arriver à la fin,
maintenant qu'on a vu le Graal des votes, on va pouvoir s'attarder à expliquer pourquoi toute cette émission finalement ne sert à rien. En troisième partie. Mais en attendant, comme on est heureux, on va pouvoir écouter un petit peu de musique. Et notamment, on va pouvoir écouter Caracas de Tintamarre dans l'album Épilogue. C'est en licence CC by NCSA 3.0. Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours dans La Voix est libre et on parle toujours de scrutin. Si vous avez aimé cette musique, sachez que c'est l'artiste, je vais y arriver, que c'est le titre Caracas de Tintamarre dans l'album Épilogue. Épilogue parce que malheureusement, ils ont interrompu leur carrière. On va tout de suite reprendre sur la fin de la théorie des scrutins.
Attendez, d'autres des mauvaises nouvelles comme ça ?
Ouais, non, je suis désolé, je voulais quand même vous avertir.
C'est-à-dire que c'est la fin de l'émission bientôt ?
Ah, je crains malheureusement que l'on s'approche de la fin.
Merde !
Alors là, maintenant, on est très contents, on a trouvé des théories des scrutins qui ont des propriétés plutôt sympathiques, en tout cas qui nous permettent d'être meilleurs que notre pauvre scrutin à deux tours, dont on a vu qu'il avait quand même deux, trois problèmes. Du coup, on est contents, on s'arrête là. On peut ranger nos affaires, aller manger un petit coup parce qu'on a commencé à avoir faim quand même.
Bah, donc en fait, l'étude des modes de scrutin avec les maths, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, moi je trouve que c'est hyper intéressant, mais il faut garder à l'idée que le vote, c'est un objet social, et donc ce qu'il faut, c'est quand même aussi que tous les votants aient la capacité de voter, d'avoir le même recours à la stratégie, une fois dit qu'il y aura toujours du vote stratégique. Et donc, imaginons que demain, il y a une bande de matheux qui arrive et qui disent « j'ai trouvé un vote, mais incroyable, faites-nous confiance, on va le faire passer dans nos fonctions à nous et vous verrez, ça a toutes les bonnes propriétés du monde », ce ne serait pas acceptable socialement. En fait, ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit capable de comprendre le système dans lequel on est, que tout le monde soit relativement sur un pied d'égalité. De ce point de vue-là, notre scrutin à deux tours, il est très mauvais, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a que tout le monde a compris un peu les règles du jeu et comment on peut tordre le truc. Donc on peut estimer que ça place les électeurs sur un pied d'égalité. Et donc il faut quand même qu'on ait aussi un système qui soit très simple pour voter et pour dépouiller, c'est-à-dire pour calculer le vainqueur de l'élection, d'une part. Et l'autre truc qui me semble important, c'est que on focalise beaucoup sur l'élection du président en France et sur ce mode de scrutin qui n'est pas terrible. Ok, c'est vrai, mais malgré tout, le mode de scrutin, ça reste un outil de la démocratie. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'autres élections qui sont aussi hyper importantes, les européennes, les législatives, tout ce que vous voulez. Et donc, il ne faut pas tout focaliser sur le mode de scrutin de l'élection du président en France. La vraie question derrière, c'est quand même aussi la question de la gouvernance plus générale.
Et par exemple, en fait, on peut aussi se rendre compte que le référendum, en l'occurrence, c'est un scrutin qui mathématiquement est parfait.
Le référendum où il y a deux alternatives, encore une fois.
Oui, exactement.
C'est ça, ouais. Alors, dès qu'on a un truc comme ça, oui, on a, du point de vue des maths, les matheux disent oui, il n'y a aucun problème, allez-y. Il a toutes les bonnes propriétés du monde, celui-là.
Mais donc, on voit bien que dans notre démocratie, il y a ce scrutin-là qui, d'un point de vue mathématique, est parfait, et ça ne nous empêche pas de nous dire il y a un problème de gouvernance, en tout cas, à résoudre sur la question de comment est-ce qu'on élit d'autres élections, etc. On voit qu'il y a analysé cette question sociale qui est comment doit s'organiser une démocratie. Ça ne peut pas se faire uniquement avec des mathématiques, avec des gens qui disent oui, ça mathématiquement c'est parfait, et ça ne l'est pas.
Et ouais, ce que je voulais dire par rapport à ce référendum, c'est que je ne veux pas défendre notre scrutin de tour, mais j'ai l'impression qu'au moins une bonne propriété de notre scrutin de tour, c'est le fait que le deuxième tour, qui est un vote à deux alternatives, du coup, là, il n'y a pas de manipulabilité, on vote sincèrement, et on est sûr que le gagnant, il sort avec une étiquette à plus de 50% des voix. D'accord ? Donc on est sûr, ça donne l'impression que c'est le préféré d'une majorité de Français. Que si on s'arrêtait à un vote à un tour, où on a quelqu'un qui gagne avec 11,5% des voix, on peut imaginer qu'on ait l'impression qu'on a élu quelqu'un qui est le préféré de personne, en gros.
Et en plus, il gagne face au deuxième du scrutin à un tour. Donc, il ne gagne pas contre n'importe qui. C'est ça aussi l'impression qui ressort.
Ouais.
Ok. Et du coup, on en arrive à une question fondamentale, qui est la question de la gouvernance. Et peut-être Quentin, tu aurais une idée d'un système de gouvernance dont tu voudrais parler qui serait intéressant. Peut-être le sujet d'une émission future, que sais-je.
Et donc là, tu nous fais une complète salade tomate-oignon, teasing, musique, édito.
Avec salto arrière.
Incroyable. Oui, effectivement, chez Picassoft, on a réfléchi un petit peu aux questions de mode de gouvernance. Notamment, on avait un bureau assez classique avec président, présidente, secrétaire, etc. Et on s'est, y a eu des drames affreux qui ont déchiré l'association. Le 7e va vous étonner. Et du coup, on vous recommande d'écouter Graphite vendredi dans 2 semaines. À 9h ou 9h30, je ne sais plus.
Un des deux horaires, en tout cas.
Pour entendre parler de cet incroyable mode de gouvernance.
Et vous verrez qu'on ne fait que des scrutins parfaits, avec oui ou non.
Ouais, qu'est-ce qu'on est bon, c'est vraiment fou. Et puis aussi, on peut rappeler que vous pouvez retrouver donc cette émission sur podcast.picassoft.net, sûrement 2 mois et demi après sa sortie, mais enfin tout de même. Et puis voilà, on n'a plus qu'à
remercier David pour cette interview.
Merci David.
Bah merci à vous de m'avoir invité, je suis ravi.
Et puis bonne journée à toutes et tous et puis à la prochaine.